Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tout premier épisode de On Rembobine, nouveau podcast consacré au cinéma. Le principe est simple, chaque film est ancré dans une réalité, qu'elle soit historique, politique ou encore sociologique, et chaque mois, On Rembobine proposera de décrypter un film en le faisant analyser par des spécialistes, qu'ils soient écrivains, chercheurs, militants associatifs. Ainsi, le spectateur de cinéma pourra entendre ce décryptage qui lui apportera des connaissances plus approfondies sur le film. Ce premier épisode est consacré au film Le procès Goldman de Cédric Kahn, sorti en salle le 27 octobre dernier. Vous entendrez ainsi la voix de Emmanuel Moineau, écrivain, auteur d'une BD documentaire Pierre Goldman, La vie d'un autre, et celle de Élise Arfi, avocate et ancienne collaboratrice de Georges Kegeman. On rembobine, clap 1, c'est parti.
Je m'appelle Emmanuel Moineau, je suis auteur de bande dessinée depuis un certain temps, ça fait 40 ans que je pratique. J'ai fait essentiellement de la fiction, mais j'ai eu le désir dans les années 2010 de faire de la bande dessinée documentaire. Et le premier ouvrage que j'ai fait dans ce style s'appelle Pierre Goldman, La vie d'un autre. C'est un ouvrage que j'ai conçu après avoir lu le livre que Pierre Goldman a écrit en prison, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Et cet ouvrage m'a impressionné, et le personnage de Pierre Goldman m'a fortement impressionné. J'ai eu le désir d'en faire quelque chose en bande dessinée. Donc j'ai fait à la fois une bande dessinée qui raconte l'histoire de Pierre Goldman, mais je l'ai rythmée par des interviews que j'ai réalisées moi-même d'amis de Pierre Goldman que j'ai pu rencontrer. La première porte qui s'est ouverte pour moi, c'était Tino Grumbach, qui se trouvait être un ami de mes parents et qui était un des avocats de Pierre au premier procès, celui de 70. Ma famille était une famille très engagée à gauche, et c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai pu faire la connaissance de Tino Grumbach. Et forcément, le parcours de Pierre Goldman, du coup, résonnait en moi.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Pierre Goldman était le fils de deux résistants FTP-MOI, de juifs polonais émigrés en France qui ont joint la résistance dès la première heure, qui se sont d'ailleurs connus dans le mouvement de la résistance. La mère de Pierre Goldman a eu le désir d'avoir un enfant, en quelque sorte, selon ce que j'ai compris, des diverses personnes qui se sont exprimées sur la question, y compris Alter Goldman. Elle voulait faire un enfant en compensation des juifs qui étaient en train de mourir dans les camps. Et c'est un héritage qui a été extrêmement lourd pour lui. Il a été toute sa vie dans la quête d'un combat qui soit à la hauteur de celui de ses parents. C'était d'ailleurs le cas d'une grande partie de la génération dont il faisait partie. Beaucoup d'intellectuels se sont engagés à gauche, soit parce que leurs parents étaient eux-mêmes dans la résistance de gauche, communistes ou autres, soit parce que, au contraire, leurs parents avaient eu un comportement soit indifférent, soit critiquable pendant la guerre, et que le besoin de se positionner dans l'immédiate après-guerre, dans les 10-20 années qui ont suivi la guerre, était très important pour cette génération-là. On a sans doute perdu le sentiment de l'urgence de l'engagement dans les générations qui ont suivi, mais pour cette génération-là, c'était fondamental. Donc, Pierre Goldman était un garçon profondément traumatisé par la Shoah. Certains ont dit qu'il était instable, peut-être l'était-il. Je ne l'ai pas connu personnellement, donc il m'est difficile de le dire. Mais ce traumatisme en a fait quelqu'un qui avait une sensibilité à fleur de peau. Et comme en fait il n'a jamais trouvé un combat à la hauteur de celui de ses parents, il en souffrait énormément, je crois. Alors je pense que c'est les errements qu'on a reprochés à Pierre Goldman. Il était fasciné par les voyous, mais il a aussi tenté d'être un voyou. Je pense que c'était une façon de compenser le besoin d'action qu'il ressentait vis-à-vis de cette fameuse quête. Mais comme cette quête était inassouvie, il a pensé trouver sans doute une satisfaction dans l'action illégale. Il y avait un lien fort entre les idées révolutionnaire et l'illégalisme, un lien qu'on peut retrouver déjà à la fin du 19e siècle chez les anarchistes illégalistes, les poseurs de bombes des années 90. Et ce lien ne s'est jamais totalement dissolu. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est encore présent. Il y a quelque chose de la rébellion dans le comportement des voyous. Mon sentiment est que Pierre Goldman était profondément un homme profondément blessé. Il était très intelligent, ça a été dit à de nombreuses reprises. Il avait un charisme indéniable et il était face à un mur. Donc c'était pas quelqu'un qui était fait pour rester en place. D'ailleurs, ce qui lui a permis d'écrire Souvenirs obscurs d'un juif polonais en France, c'est son séjour en prison. C'est le seul moment de sa vie où il n'avait plus de questions à se poser sur la direction qu'il devait prendre. L'acteur qui incarne Pierre Goldman à l'écran fait passer cet aspect de la personnalité de Pierre Goldman, un tempérament volatile et une souffrance qui se voit jusque dans ses traits. La séquence avec Alter Goldman est assez impressionnante de ce point de vue-là. Georges Kirchmann était un homme extrêmement élégant, et je ne parle pas seulement de sa façon de se vêtir. C'était un charmeur et quelqu'un qui avait une vision assez théâtrale de son métier, qui pensait que le métier d'avocat de la défense était très proche de celui d'un acteur. J'ai été assez bluffé par l'interprétation d'Hariri, que j'ai trouvé très juste, y compris dans la façon de sourire sous la moustache, quelques gestes qui m'a semblé retrouver du Georges Kirchmann que j'ai rencontré. Il m'a parlé d'une relation avec Pierre Goldman qui était à la fois un profond attachement l'un à l'autre, le fait qu'ils aient eu un parcours assez similaire, mais il y avait aussi des engueulades, c'est indéniable. Pierre Goldman était un juif athée, pour autant que j'ai pu le comprendre. C'était quelqu'un qui avait un lien fort avec l'histoire d'Israël, qui a été bouleversé par les guerres qui ont lieu dans ses années de jeunesse, la guerre des Six Jours notamment. C'était quelqu'un qui se voyait comme profondément juif, mais c'était quelqu'un qui n'était pas religieux. Il a utilisé sa judéité en prison pour se joindre au culte, mais de façon à échapper à sa cellule principalement. Il a toujours eu un lien fort avec les autres juifs qu'il a rencontrés, et y compris, je crois, avec le rabbin qui officiait en prison. Mais c'était pour moi clairement plus un lien lié à l'histoire des juifs qu'un lien lié à la religion. Ce qui a changé le regard de la gauche et de l'extrême gauche sur Pierre Goldman au moment où, et des intellectuels au moment où, du deuxième procès, c'est qu'entre-temps, il avait écrit ce livre, Les souvenirs d'un juif polonais né en France, et que ce livre a été applaudi à la fois pour son contenu, mais aussi pour sa qualité littéraire. Donc le fait qu'un écrivain doué soit en prison a beaucoup plus ému que si un simple petit voyou de gauche était dans la même position. C'est injuste, mais je crois que c'est l'explication principale.
Un commando de tueurs assassine Pierre Goldman, qui avait été impliqué dans l'affaire du meurtre.
Pierre Goldman parle toujours de son lien avec les Noirs. Il ne précise pas, mais la plupart de ses amis noirs étaient des Antillais. Il faisait un lien entre la souffrance du peuple noir, du peuple africain déporté, avec la souffrance du peuple juif en exil. Pour lui, le doute n'existait pas. Il y avait un lien indéfectible entre ces deux peuples. Il était ami avec des Antillais. Il s'est marié plus tard avec une Antillaise. Et une des phrases qui sont dans mon souvenir obscurs que je ne pourrais sans doute pas citer mot pour mot, mais il me disait que l'enfant qu'il aurait avec Christiane ne serait pas un juif avec du sang noir, mais un noir avec du sang juif. Donc il mettait très haut le peuple noir, aussi pour des raisons musicales. Il était très attiré par la musique antillaise. Il était d'ailleurs lui-même, semble-t-il, un assez bon percussionniste. Et il a consacré une partie de sa vie en liberté après le procès d'Amiens à la musique antillaise. Je suis parfois surpris que des jeunes qui sont nés bien après la mort de Pierre Goldman viennent m'acheter mon ouvrage et il reste une certaine fascination au départ pour le personnage romantique qu'il représente. Cette idéalisation de Pierre Goldman, si c'est un moyen d'amener les gens à s'intéresser à ce qu'il était vraiment, alors on va dire que c'est déjà en partie gagné. Mais il y a encore aussi d'ailleurs des gens qui éprouvent une haine certaine pour cette France de la population qui, on a entendu un président de la République à une époque parler avec un certain mépris des 68ards, ce que n'était pas Pierre Goldman d'ailleurs, parce qu'il n'a pas participé à mai 68, et qu'il le jugeait comme une révolution petite bourgeoise, mais toute cette génération de gauche est aussi profondément méprisée et haïe par une partie de la société. L'intérêt du public pour l'histoire de Pierre Goldman tient au fait que c'est une période de notre histoire qui est peu traitée et qu'il en est l'emblème. Il en est à tel point l'emblème que certains ont dit que sa mort signait la fin d'une époque. Parce que Bachelet me disait, c'est un Hamlet. Certainement, la figure de Pierre Goldman va continuer à fasciner des gens. C'est une figure extrêmement romantique, du moins jusqu'à ce qu'on se penche un peu en détail sur la question. Ça peut rester ça.
Et maintenant, place à la deuxième partie de On Rembobine avec l'analyse du procès Goldman vu par une spécialiste du droit.
Je suis Élise Arfi, donc avocate au barreau de Paris. J'ai été la collaboratrice de Georges Kiegeman il y a maintenant quelques années, entre 2004 et 2007. Donc je l'ai très bien connu et je suis un témoin, on va dire, très indirect de l'affaire Goldman. Mais j'en ai entendu parler, bien sûr, par Georges Kiegeman. La reconstitution du procès donc, dans la cour d'assises qui était censée être la cour d'assises d'Amiens m'est apparue très réussie. On est dans un climat un peu de pièce de théâtre. Je trouve qu'il n'y avait pas d'erreur, on va dire, par rapport à la procédure. C'était une reconstitution, à mon sens, fidèle de ce qui peut se passer dans une cour d'assises. Je pense que quand Georges Kiegeman défend Pierre Goldman, on est au milieu des années 70 et je crois que c'est déjà un avocat d'un certain calibre. De sorte que Georges Kiegeman a beaucoup d'expérience. Je ne pense pas qu'il ait eu tant de pression que cela. En plus, à l'époque, bon, il y avait évidemment la presse, mais par exemple aussi, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je vois ça un petit peu différemment de ce que ça pourrait être aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que vous êtes dans un procès médiatique, il y a des journalistes dans la salle qui, par exemple, peuvent faire des live tweets. Donc on peut quasiment réagir en temps réel à ce qui se dit à l'audience. Je pense que pour Pierre Goldman, évidemment, il y avait une grosse pression. D'ailleurs, on voit bien dans le film, hein, qu'il y a beaucoup de militants, il avait beaucoup de soutien. C'était une personnalité très, très connue. Mais je crois que Georges Kiegeman avait déjà aussi l'expérience, la carrure, hein, la possibilité, lui, de gérer un client comme Pierre Goldman, qui était un client très difficile, mais aussi la pression médiatique. Encore une fois, pression médiatique un peu différente de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Georges Kiegeman était, à mon sens, quelqu'un, de pudique sur sa vie privée, sur ses origines. Je ne crois pas qu'il le laissait facilement transparaître dans ses plaidoiries. Donc je pense qu'en cela, le film est fidèle au personnage, hein, qu'il était. Après, c'est aussi quelqu'un qui avait un tempérament assez volcanique. Le personnage de Georges Kiegeman, campé par Arthur Harari, en effet, est en retenue. J'imagine que Georges Kiegeman bouillonnait intérieurement, certainement. Je sais aussi que, encore une fois, Pierre Goldman n'était pas un client facile. C'était un homme très exigeant, de ce que j'en ai entendu. Et il ne s'entendait pas forcément très très bien avec Georges Kiegeman, d'ailleurs. Et le film le montre un peu, hein, oui. Dans le film de Cédric Kahn, on voit un Pierre Goldman qui ne cesse de crier, clamer, hurler son innocence et son comportement un peu agité, parfois histrionique dans le box, participe de cela, du fait qu'il clame son innocence. Il faut comprendre que quand on est accusé à tort d'un crime qu'on n'a pas commis, eh oui, il y a de quoi être très fortement énervé et même peut-être frustré parce que l'accusé a envie de s'expliquer. Il a envie de dire qu'il est accusé injustement et oui, ça peut faire monter une forte tension. L'acteur hein, qui joue Pierre Goldman est exceptionnel. Vraiment, il crève l'écran, il est très charismatique. Sa façon de s'exprimer m'apparaît fidèle. Je trouve que le rôle est très bien écrit, le scénario aussi. Il a beaucoup de passages où il y a des tirades, hein, des monologues. Et par ailleurs, il rebondit beaucoup, il interagit beaucoup avec ce qui se passe à la cour d'assises. On voit qu'il intervient quand les témoins sont à la barre. Il intervient quand l'avocat général aussi lui pose des questions. Donc il est très très actif, lui. Mais cela étant dit, je crois aussi savoir, enfin, ce qu'on m'en a raconté, que Pierre Goldman était de toute façon quelqu'un d'agité. C'était pas quelqu'un de très très calme hein, dans la vie courante. Georges Kiegeman a parlé de cette affaire pour une raison assez simple. Enfin, m'en a parlé parce que moi, pendant 3 ans, je faisais face dans mon bureau à la photo de Pierre Goldman grandeur nature qui avait donc été utilisée pour le procès d'Amiens. Et c'était une idée de Georges de faire réaliser cette photo. On voit qu'elle a été utilisée dans le film pour montrer en fait la mauvaise foi des enquêteurs au moment de procéder au tapissage avec la reconnaissance oculaire des témoins. Et moi, quand je suis arrivée au cabinet, je ne connaissais pas du tout cette affaire. Et c'est Georges Kiegeman qui m'a raconté comment s'était déroulé le procès. Je me souviens que ses relations avec Pierre Goldman n'avaient pas été bonnes, malgré ce très beau résultat judiciaire. Hein, c'était des relations difficiles, assez conflictuelles. Et je me souviens que Georges Kiegeman s'étonnait, il m'avait dit « À chaque fois les journalistes viennent me voir pour me parler de l'affaire Pierre Goldman, je n'aurais jamais cru que Pierre Goldman jouirait d'une telle aura des années, des décennies après sa mort. » Il ne pensait pas en fait que Pierre Goldman deviendrait cette espèce d'icône, hein, que des années après ce procès, il y aurait autant d'actualités, de débats, d'émissions. Vous voyez, on est encore en train de parler de lui. Il n'avait pas du tout misé là-dessus ou imaginé une telle notoriété posthume. Dans le film de Cédric Kahn, déjà j'observe qu'on nous montre à l'écran dans quel ordre on prend la parole. Puisque Francis Chouraqui, il est décidé lors d'une scène au dépôt à la cour d'assises, il est dit tout de suite que Chouraqui ne plaidera pas. Donc il n'y aura que Kiegeman et Pollack qui plaideront. Et dans le film, Pollack commence, ça peut être soit parce qu'il fait une plaidoirie introductive un peu plus à distance, il plaidera moins le fond du dossier. Kiegeman donc conclut hein, la plaidoirie. Mais il y a plusieurs explications en réalité. On peut avoir une plaidoirie introductive, donc là ça peut être l'avocat senior, on va dire, qui va faire cette introduction, rappeler aux jurés quelles sont leurs responsabilités, quelle est l'importance de leur mission, quels sont les grands principes auxquels ils doivent absolument obéir, notamment le principe du doute qui doit toujours bénéficier à l'accusé. Et ensuite, la plaidoirie d'un avocat plus jeune, mais peut-être plus investi aussi dans le fond du dossier, qui le connaît par cœur et qui va démonter les thèses de l'accusation les unes après les autres. Je crois me souvenir que Georges Kiegeman, enfin je me souviens pas, j'en suis certaine, avait une immense admiration pour Pollack. C'était un de ses maîtres, un de ses mentors. Après, c'est vrai que c'est pas la même époque, c'est pas la même école. On peut avoir une admiration profonde pour certains avocats et pourtant être dans un style complètement différent. C'est un peu ce que montre le film, je suis d'accord, pour dire que oui, on a un Pollack qui est assez âgé, hein, qui est plutôt en toute fin de carrière, alors que George Cageman, lui, a une quarantaine d'années, 40 ans, c'est la star montante du barreau à ce moment-là. Et oui, on le voit dans un style beaucoup plus incisif, en effet. En France, le témoin est à la barre. Dans les salles d'audience françaises, dans les cours d'assises, on a une barre centrale. Le témoin se présente à la barre et l'avocat a le droit de se mettre absolument où il veut. Moi, j'aime bien justement dans le film la reconstitution au plan du langage corporel des avocats et par rapport aux témoins. Ça me parle. Moi, c'est comme ça que je fais aussi. Le fait d'être près des témoins peut participer d'une forme de pression, mais je ne pense pas que ce soit dans cette intention que ce soit fait. C'est plutôt dans l'intention de saisir vraiment le regard du témoin et de voir, au-delà de sa simple parole, son comportement, son attitude. Et quand le témoin est debout, en fait, nous, on utilise tout. Tout est une matière pour la défense, tout. La façon dont les pieds seront posés, dont la main va malaxer la barre, les clignements d'yeux, les mouvements de sourcils, tout dans le visage peut délivrer un message, peut être une sorte de parole. Donc, j'entends quand on dit que ça peut mettre la pression, mais je ne crois pas que ce soit le but recherché. Je trouve que les avocats dans le film sont très bons. La manière dont ils contre-interrogent les témoins est très efficace. Et de toute façon, quand vous voyez que quelqu'un soit se trompe, soit ment à la barre, y compris sous serment, oui, la tentation peut être de reposer toujours les mêmes questions, d'être répétitif, jusqu'à ce que le témoin lâche quelque chose d'autre qu'un discours convenu. C'est de la matière vivante, c'est ça les assises, hein. Et la procédure est orale. Chaque chose qui se passe dans la salle d'audience est la matière de la défense. L'avocat doit pouvoir utiliser tout ce qu'il a à portée de main, d'yeux, de regard, de voix, pour défendre du mieux possible l'accusé. Moi, je trouve que le film est très réussi dans l'axe, enfin c'est un des choix, je connais pas dans le détail toute cette affaire, mais j'ai quand même bien compris qu'il y avait deux problèmes. Le problème était le rôle très partial des enquêteurs qui confinaient à la malhonnêteté intellectuelle pour faire accuser Pierre Goldman. Et le second problème, qui est très bien montré dans le film, est celui des témoignages oculaires et de leur fragilité. Les témoins oculaires sont souvent mis en avant dans un certain nombre de dossiers. Or, on se rend compte qu'ils font des erreurs. C'est pas que les gens mentent, mais si là on se met au balcon du cabinet, si on regarde toutes les deux à la fenêtre et on voit une séquence et on s'en parle, peut-être que vous verrez quelqu'un qui a un pull rouge, moi j'aurais vu vert, la couleur de la voiture, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Moi je trouve que le film met très très bien la focale sur ces deux difficultés qui sont assez récurrentes finalement à la cour d'assises. C'est des thèmes qui sont vieux comme le monde. Et moi, quand j'ai vu le film, je sortais d'un procès où justement ces deux problématiques s'étaient posées. Donc le film, c'est très très bien vu de ce point de vue-là, vraiment. C'est des difficultés qui sont récurrentes pour la défense, toujours. Je suis d'accord pour dire que dans le film, on peut être étonné par le fait que la salle déborde un peu, hein, les débats, et le président n'a pas une police d'audience, on va dire, très sévère. On pourrait même plutôt dire qu'il est assez laxiste. Personnellement, on voit de tout, mais la plupart des présidents d'assises ont très peur justement de se faire déborder par la foule, ont très peur de l'influence, de la pression que la foule peut exercer sur les débats. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sérénité dans les débats tels qu'ils sont montrés dans le film, justement parce qu'il y a une intervention permanente des soutiens de Pierre Goldman qui commentent tout, qui applaudissent, qui poussent des cris. Bon, c'est très déstabilisant pour un avocat d'avoir des réactions comme celle-là. Et en plus, la salle peut exercer une influence, peut être le miroir en fait des jurés qui sont aussi des gens du public, sauf qu'on les tire au sort et qu'on les fait siéger pour rendre une décision côté des magistrats. On a énormément de films de procès. Je ne sais pas si c'est une mode ou si c'est une véritable tendance de l'opinion française. Moi, ce que je constate, c'est que ça passionne, ça fascine. Le fait judiciaire, le fait divers fascine les gens. Chacun prend parti. On le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Quand une femme disparaît ou un enfant disparaît, le public se met à la place des enquêteurs. Chacun y va de son hypothèse. Je crois que c'est très français. Et j'en veux aussi pour preuve qu'à l'université, le droit pénal, qui était assez marginal, maintenant fait des émules. Beaucoup d'étudiants, et les meilleurs, veulent faire du droit pénal, veulent devenir avocats pénalistes. Et ce n'était pas comme ça il y a 15 ans, moi, quand j'ai prêté serment. Les étudiants, surtout les très bons étudiants, allaient plutôt vers le droit civil ou le droit des affaires. Mais aujourd'hui, le droit pénal exerce une influence... manifeste. Les réalisateurs font des films de procès parce qu'ils constatent que c'est dans l'air du temps, c'est ce qui plaît au public, c'est ce qui plaît à l'opinion. La justice est quelque chose qui est au cœur de notre société, qui n'est pas encore très bien connu. Même le vocabulaire hein, utilisé dans le cadre d'audience n'est pas maîtrisé, alors que ce n'est pas forcément très savant ou très scientifique. Mais voilà, pour moi, tous les films sont le reflet de notre époque, et une époque qui est fascinée par le procès, parce que ça dit... de notre société. Pour moi, c'est ça que ça renferme, cet intérêt. On ne peut jamais être plus proche peut-être de la société, du fait social, que dans une salle d'audience. Et je crois que les réalisateurs l'ont compris, et que donc ça offre une arène où on peut voir toute la palette des comportements humains.